morning.
Good morning.
Good morning.
Yeah, good morning.
Whoa, good morning. And
good morning, Radio Premier.
Bonjour et bienvenue sur Radio Prévert 105.9. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle matinale. Bonjour Stéphane.
Salut Manon, comment ça va ce matin?
Ça va bien et toi?
Ça va super, un petit peu fatigué mais ça va.
Bon et bien on va commencer alors avec ta chronique météo.
La météo bien sûr avec le... Si un flash info, juste après un petit jingle Manon. C'est l'heure de la météo en Saône-et-Loire sur Radio Prévert 105.9. Et on commence donc avec la météo de ce mercredi, c'est toujours un temps estival que l'on attend cet après-midi. Météo France nous prévoit un très beau soleil sur tout le département, il fera 21 au Creusot et à Autun, 22 à Chalon et 23 à Mâcon. Jeudi et vendredi, le soleil est au rendez-vous une nouvelle fois, les températures seront toujours au-dessus des normales de saison. Vendredi, le mercure connaîtra une légère baisse, on atteindra au maximum 12 degrés. Les deux jours suivants, il faudra ressortir les parapluies, c'est un week-end pluvieux en perspective. Les températures seront comprises entre 10 et 14 degrés, l'automne pointe le bout de son nez pour commencer les vacances de la Toussaint. C'était la météo sur Radio Prévert 105.9.
Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9.
Et on commence ce flash avec du cyclisme. Hier, le tracé du 105e Tour de France a été dévoilé à Paris. On le savait depuis quelques temps, l'édition 2018 prendra son départ en Vendée. Le Nord-Ouest et le Sud-Est sont largement privilégiés par le nouveau parcours de la Grande Boucle. Les principales difficultés sont en montagne, l'ascension du mythique Portée d'Aspé ou encore le col du Tourmalet, pour ne citer que. On dénombre aussi 3 arrivées au sommet, 2 dans les Alpes et 1 dans les Pyrénées. Les coureurs s'élanceront donc le 7 juillet prochain. On poursuit avec le classement des villes les plus attractives de France, dévoilé hier. On y apprend que les Français recherchent d'abord un bon job en CDI et un logement correct, ce qui fait plutôt la part belle aux agglomérations de taille moyenne. Et sur le podium, on retrouve en numéro 1 Lille, suivi de Grenoble, et enfin, sur la troisième marche, notre capitale régionale, Dijon. Et pour terminer ce flash, on va déjà parler des fêtes de fin d'année. Et en effet, en raison d'une pénurie de beurre, le prix de vente des bûches de Noël, mais aussi des galettes des rois, pourrait être impacté. Cet incident intervient en raison de la demande en forte hausse et aux conditions météo qui sont défavorables à la production de beurre. Voilà, c'est donc la fin de ce flash, c'est tout pour aujourd'hui. Et on va te retrouver Manon pour ta chronique cinéma juste après.
Exactement. C'était toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Prévert 105.9. Ciné News, la chronique du 7e art sur Radio Prévert 105.9. Aujourd'hui sur la chronique cinéma, nous allons parler du film Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street. Un peu de sombre avant Halloween. Le métrage Sweeney Todd a été réalisé par Tim Burton, qui a entre autres fait Big Fish ou encore Beetlejuice. Il est sorti dans les salles le 23 janvier 2008. Il dure 1h55. On retrouve dans son œuvre les acteurs Johnny Depp, un de ses plus vieux amis, Helena Bonham Carter, qui fut sa femme durant de nombreuses années, et Alan Rickman. Certains le reconnaîtront si je cite qu'il jouait le professeur Rogue dans Harry Potter. Ce film allie le côté comédie musicale avec le thriller, l'épouvante horreur et le drame.
Et donc Manon, le film, de quoi il parle? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu saliver justement pour qu'on ait envie de le regarder?
Alors je vais donc vous donner un petit synopsis fait par mes soins. Dans l'ancien Londres, un homme nommé Benjamin Barker, évadé d'une prison australienne, revient au cœur de cette ville avec qu'un seul dessein en tête, la vengeance. Celle-ci est dirigée vers le juge Turpin, homme fourbe et vil qui n'hésita pas à condamner Benjamin dans l'unique but de lui prendre sa femme et son enfant. Armé de cette lueur vengeresse au fond des yeux, Benjamin prend le nom de Sweeney Todd et récupère son ancienne échoppe de barbier située au-dessus d'une boulangerie, celle de Madame Lovette. À la suite de cette rencontre, naît une véritable horreur humaine, totalement bénéfique aux affaires des deux complices. Jusqu'à quel point la vengeance d'un homme peut-elle peut-elle transformer l'être en lui-même? Qu'est-il advenu de son enfant, Johanna, aux griffes du juge? Saura-t-il mener à bien sa vengeance?
Et j'imagine, Manon, que tu as vu le film. Est-ce que tu as des anecdotes, justement, à nous donner, comme dans chaque semaine dans ta chronique ciné, Manon?
Effectivement, j'en ai trois. La première est que ce film signifie la sixième collaboration entre Tim Burton et Johnny Depp. Effectivement, avant ce film, ils avaient déjà été en collaboration ensemble sur, par exemple, Edouard aux mains d'argent, qui est sorti en 1990, Ed Wood en 94, Sleepy Hollow en 99, Charlie et la chocolaterie en 2005, et Les Noces funèbres en 2005 aussi. Il y a encore eu d'autres collaborations après ce métrage, comme par exemple Alice au Pays des Merveilles. Une deuxième anecdote. Ce film marque l'histoire d'une légende de la culture populaire. Sweeney Todd est un personnage popularisé par le récit de Thomas Beckett Prest, appelé The String of Pearls, A Romance. Également popularisé par des faits réels, avec un homme sanguinaire qui vivait dans le Londres ancien. Troisième anecdote. Johnny Depp nous livre quelques paroles sur son diabolique personnage. Celui-ci dit « Sweeney Todd est un personnage très noir, mais c'est aussi un être hypersensible qui a vécu de terribles épreuves et subi un très lourd préjudice. Le sort s'est tellement acharné sur cet homme qu'il n'est plus tout à fait lui-même. Il vit au ralenti, dans un décalage permanent, il a toujours un train de retard. On l'a arraché une vie parfaite, un monde idéal, on l'a plongé en enfer pendant 15 ans. Et il n'en est pas ressorti. Il n'en est que ressorti pour pouvoir éliminer ses ennemis. »
C'est bien, Manon. Et au final, le film, tu l'as aimé, tu l'as apprécié. Dis-nous tout.
Alors, personnellement, j'aime beaucoup les films sombres. Cependant, j'ai au départ eu du mal avec celui-ci du fait du côté comédie musicale horrifique. Ce n'est pas quelque chose auquel on est facilement habitué. Pourtant, il est possible de s'y habituer. Et l'originalité du concept m'a pourtant séduite. De plus, le côté histoire vraie donne une autre dimension à ce film. De manière large, le film est très sombre. Il y a quelques traces de couleurs significatives qui n'apparaissent qu'à certaines scènes. Comme par exemple, quand on nous montre des scènes de la vie d'avant de Barker, justement. Qu'on le voit avec sa femme et sa fille que tout se passait bien. Donc là, on a un point de vue coloré. Vis-à-vis des personnages, on voit surtout une évolution chez Madame Lovett, qui, elle, commence à ressentir des sentiments vis-à-vis de notre Sweeney, en fait, qui, quant à lui, n'évolue pas. Effectivement, le personnage n'évolue pas du fait qu'il est coincé dans sa vengeance. Il ne vit que pour celle-ci et ne souhaite pas s'en détourner. Ce qui est dommage, car elle rate des choses importantes. Vous verrez de quoi je parle si vous regardez le film. Ensuite, je tiens à dire que ce film est touchant de par les sujets qu'il aborde. La prison, le viol, la dépression, la séquestration, et etc. Beaucoup de sujets dits sensibles sont abordés. C'est un film réellement enrichissant. Il est peut-être trop dur pour certaines personnes du fait de la violence qui est montrée. Là, je parle effectivement des flaques de sang et des cadavres exposés. Il ne conviendrait donc pas à tout le monde. Si vous voulez frissonner, je vous le recommande pourtant vivement. Pour terminer, parlons du scénario. Je trouve celui-ci bien fait. Nous avons différentes scènes qui contrastent entre elles, de l'intrigue des révélations. Ce n'est pas un film avec lequel on s'ennuie facilement. Le seul hic réellement à ce métrage est le fait que ce soit chanté, car cela ne plairait évidemment pas à tout le monde. N'hésitez pas à nous donner le titre d'un film que vous souhaiteriez que l'on aborde sur Facebook. C'était Cine News sur Radio Prévert 105.9. Et maintenant, un peu de musique avec Lithium de Nirvana, Kiss Me Forever de Julien Doré et I Love Your Smile de Charlie Winston.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah.
Metallique, kiss me forever. a child with ocean eyes, I've smiled at a world existing just for me. Without boxes, borders, or boundaries, I built dreams. But like plastic building blocks, they were knocked down to the ground. I grew up to a world of compromise, analyzing what it means to dream. I don't really want to understand everything in my world, it spoils the fun for me. Come on, darling, you can take my hand. Blowing kisses in the wind will fly away in our dreams from the boxes.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
Nous nous retrouverons maintenant, après ce petit mix musical, eh bien, pour le lancement d'une chronique sur la musique.
Et oui, Manon, on va revenir sur la carrière folle de Calogero dans cette matinale, puisqu'il a sorti en effet un album il y a quelques temps, et que le chanteur français fait toujours un tabac auprès du public, et c'est tout de suite après un jingle. Music Time, votre magazine sur les dernières nouvelles et sur l'histoire de la musique. Liberté Chérie, c'est le nom du dernier album de Calogero, sorti dans les bacs à la rentrée 2017. Vous n'avez pas pu passer à travers un des titres phares de ce nouvel opus.
4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique.
Je joue de la musique, sorti en single en avril dernier, cumule pas loin des 10 millions de vues sur YouTube. Avec son air et ses paroles entraînantes, Calogero prouve qu'il reste un compositeur hors pair. Ce 7e album devient rapidement disque d'or, preuve que le public est toujours derrière le chanteur. Dernièrement, le clip Fondamental, autre titre phare de l'album, a été dévoilé. Il a été en effet réalisé à deux pas de Chalon, dans les ateliers du cinéma de Claude Lelouch à Beaune. Mais Calogero, c'est plus de 30 ans de carrière, rien ne le prédestinait à la musique, et pourtant, le chanteur à succès est né dans la banlieue de Grenoble à Échirolles dans une famille plutôt modeste. Il fera du solfège avec son frère, mais tous deux se feront rapidement exclure car ils ont une oreille trop développée. Autrement dit, comme il le relate dans une interview, on était fait pour entendre la musique, pas pour la lire. Béni dans une culture musicale populaire, il a été influencé par ses parents. Sa mère écoutait du Dalida, quant à son père, du Mike Brandt. C'est donc à l'adolescence que Calogero, son frère et un ami débutent leur carrière dans la musique en formant le groupe Les Charts en 1987. Très vite, ils se font remarquer et sortiront plusieurs albums. En 1999, le groupe se sépare et tous trois se lancent dans des carrières solo. En apesanteur, vous avez forcément entendu ce titre phare de 2002. C'est le premier tube du Grenoblois depuis avoir commencé sa carrière en solo. Extrait de son second album éponyme, la musique et le clip connaissent un succès triomphant. C'est aussi les premiers pas de Mélanie Douté dans cette vidéo, la mettant en scène aux côtés de Calogero. Encore inconnue, elle sera révélée par le chanteur. L'album sera certifié très rapidement disque de diamant. L'artiste enchaîne désormais les concerts aux quatre coins de l'Hexagone. 2 ans plus tard, avec son 3e album intitulé tout simplement 3, Calogero signe une nouvelle fois plusieurs tubes. Yala, Si seulement je pouvais lui manquer, et surtout Face à la mer qu'il interprétera avec le rappeur Passy.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon terre. Face contre terre, ton nom sur la liste de tout ton être. Si tu as comparé.
Les ventes de l'album approchent le 1,5 million d'exemplaires. Le chanteur sera consacré meilleur artiste masculin à cette occasion lors des 19e victoires de la musique. Calogero devient une icône et travaille avec les plus grands noms de la musique, Johnny Hallyday, Pascal Obispo et donc Passy. Dernièrement, en 2013, il a écrit en intégralité le dernier album du Chalonnais, Florent Pagny, un ami de longue date. Au total, il sera plusieurs fois récompensé en décrochant 2 Energy Music Awards, 3 victoires de la musique et le titre d'album de l'année décerné par RTL. Calogero fait aussi partie des chanteurs français les plus engagés au travers sa musique et ses diverses participations. En 2014, il sort le titre « J'ai le droit aussi » où il dénonce l'homophobie et passe un message de tolérance.
J'ai le droit aussi, le droit d'être avec lui, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit aussi, le droit de l'aimer lui, j'ai le droit d'être amoureux.
Le clip met en scène un jeune homme d'un établissement scolaire tiré entre ses sentiments pour un garçon et ses craintes concernant les réactions de ses proches. Mais ce n'est pas tout, l'artiste rend aussi hommage dans certains de ses titres comme « Un jour au mauvais endroit ».
Toi mon frère, dis-moi pourquoi.
Indigné dans une tristesse profonde, comme il le relate dans une interview à travers son texte, il rend donc hommage à deux jeunes de sa commune, Échirol, lynchés par une bande d'une cité voisine. Ces deux titres, extraits de l'album Les Feux d'Artifice, sorti en 2014, seront très favorablement accueillis par le public. Calogero œuvre aussi pour des actions caritatives en participant notamment au Resto du Cœur, au site d'action ou encore à la lutte contre la mucoviscidose avec l'association Grégory Le Marchal. Dernièrement, il rendra hommage aux victimes de l'attentat qui a touché Nice en 2016 lors des commémorations du premier anniversaire du terrible événement où il a interprété les feux d'artifice. Submergé par l'émotion, il ne put finir sa musique. Voilà, Calogero, vous l'aurez compris, tu l'auras compris Manon, c'est un artiste que j'apprécie tout particulièrement pour ses textes notamment. Et puis, c'était une petite place pour moi pour son prochain concert à Dijon, je suis toujours preneur.
Eh bien, tu sais, je suis, comme on dit l'expression de nos grands-parents, je suis fauché comme les blés. Voilà.
Très bien, Manon. Je passerai mon tour, alors.
Allez.
C'était Music Time sur Radio Prévert 105.9. Et on va te retrouver, Manon, donc tout de suite pour ta chronique histoire dans la suite de cette matinale.
Nom de Zeus, votre rubrique histoire, mythes et légendes. La semaine dernière, nous avons parlé de Uranos et Gaïa et de la prise de pouvoir par Cronos, enfin de ceci. Aujourd'hui, nous aborderons donc le sujet des tous titans et titanies qui sont leurs enfants. Tout d'abord, rappelons les noms de ceci. Alors attention, il y a une liste, ils sont 12, hein. 6 filles, 6 garçons, tout va bien. Coéos, Mnémosyne, Cryos, Phébé, Hyperion, Rhea, Japé, Théia, Océan, Thémis, Cronos et Tétis. C'est bon, vous avez tout suivi? Nous allons nous attarder brièvement sur chacun d'entre eux, sauf Cronos et Rhea. Eux, on les verra plus tard. Coéos signifie « celui qui pense » ou « question » en grec ancien. Il serait donc considéré par certains comme la divinité de l'intelligence. Les Romains le nomment Polos, ou l'axe du monde autour duquel tournent les constellations. Il est doté de prophétie. Il a épousé Phébé, une de ses sœurs, et oui, c'est toujours mis en famille, comme on dit. Il a participé à la titanomachie, qu'il envoya tout droit au Tartare. Nous y reviendrons encore plus tard. Phébé, donc sa femme, signifie « la brillante », c'est la titanide au diadème d'or. Celle-ci ne participa pas à la titanomachie, ce qui lui fera garder sa place aux cieux. Phébé, en tant que titanide de la lumière, sera assimilée à Sélénée, qui elle est la déesse de la lune. Elle fut également la titanide des prophéties, notamment de l'oracle de Delphès. Elle et son mari sont les parents de Astéria et Leto. Leto, petite... parenthèse, est la mère d'Apollon et Artémis. Elle donna d'ailleurs son nom de voyance, enfin la Phébé cette fois, à Apollon, son petit-fils. Hyperion signifie celui qui va au-dessus. Il est le premier à avoir compris comment fonctionnaient les astres. Il a participé lui aussi à la titanomachie et a eu droit au même destin que ses frères. Il est marié à Théia, sa sœur. Théia, justement, veut tout simplement dire déesse. Elle est mariée à Hyperion. Elle n'a pas participé à la titanomachie. Elle et Hyperion sont les parents de Hélios, le soleil, Sélénée, la lune, et Eos, l'aurore. C'est elle qui a créé l'or et les pierres précieuses. Japé signifie « celui qui précipite ». Il est marié à Climène, fille de son frère Uranos, donc sa nièce. Il a participé également à la titanomachie. Avec Climène, il a eu Prométhée et Pimétée, Ménétios, Hespéros et Atlas. Nous reviendrons sans doute sur Prométhée et Atlas. Rien que le mot Atlas, je pense que ça vous dit quelque chose. Océan est l'aîné des titans. Il est marié à la Benjamine des titanides, Titis. Il n'interviendra pas lors de la titanomachie. C'est bien le seul d'ailleurs. Il préfère régner paisiblement sur le vaste océan. Vous doutez donc d'où vient ce mot? Sa représentation faisait de lui un vieillard de belle prestance, aux sentiments doux et bienveillants, qui vivait au sein des eaux profondes, loin de l'agitation de ce monde. De par cette description, on comprend pourquoi il n'apparaît pas beaucoup dans la mythologie. Les seuls moments où il apparaît sont pendant les 12 travaux d'Hercule, ou encore quand il rend visite à Prométhée, attaché à son rocher. Effectivement, je vous expliquerai cette histoire, pas très drôle pour lui en fait. Tétis, sa femme, donc la plus jeune des titanides. Son nom viendrait du mot « nourrice ». Elle représenterait l'élément féminin, fécond des mers et des fleuves qui nourrissent la terre. Elle et Océan ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Des dieux fleuves, en passant par les océanides, personne n'arrive à savoir le chiffre exact. Il y en aurait sans doute plus de 3000. Vous imaginez un peu, 3000 enfants ? La suivante est Mnemosyne. C'est pas un nom facile ni à écrire ni à prononcer. C'est une titanide et déesse de la mémoire. C'est elle qui aurait inventé les mots et le langage, ainsi qu'une signification pour chaque chose, rendant possible le fait de s'exprimer. En Pierie, elle aurait accueilli Zeus pendant 9 nuits. Celui-ci s'était déguisé en berger, qu'on se le dise. Elle donna alors naissance aux 9 muses. Calliope, Clio, Melpomène, Euterpe, Erato, Terpsichore, Uranier, Thalie et Polymnie. Donc les 9 muses représentent chacune un art. Mnemosyne sera représentée avec une belle chevelure bien décorée sous la forme d'une femme d'âge mûr. Donc petit fait historique, à l'époque grecque, il y a des années donc, les dieux étaient souvent représentés sous la forme d'adolescents, parce que ce serait cette période où l'homme est au succès, on va dire, au sommet de sa... comment dire ça ? De sa puissance, en fait. Or, elle était représentée sous les traits d'une femme mûre. C'est étrange, n'est-ce pas ? Ensuite, le titan Krios. Sur lui, nous n'avons que très peu d'informations. Il serait marié à Eurybice, sa demi-sœur, née de Gaïa et de Pontos, le flot, avec qui il aurait eu Astréos, Pallas et Persès. Il aurait pris le bélier pour symbole, en référence à la constellation du même nom. Ensuite, Thémis, autre titanide, personnifie, elle, la loi divine, réagissant le comportement des hommes. Elle est la seconde épouse de Zeus après Métis, océanide et mère d'Athéna. Oui, il a eu beaucoup d'épouses. Mais également sa conseillère. Sur l'Olympe, elle aurait présidé à l'ordre universel, au serment et à la justice. Elle siégeait près de Zeus lui-même. Elle aurait eu des pouvoirs de voyance si puissants qu'elle aurait créé l'oracle de Delphes. C'est elle qui aurait appris la divination d'ailleurs à Apollon. Ses pouvoirs étaient si puissants qu'elle pouvait même voir des choses que Zeus ne voyait pas lui-même. Donc voilà, vous commencez à comprendre sa puissance. Avec Zeus, elle a eu les heures, les moires, Astrée et les nymphes de l'Éridane. Je tiens à préciser que les titans qui ont aidé Cronos à tuer leur père et prendre le pouvoir, en fait, ont reçu une part du monde. Effectivement, c'est d'ailleurs ceux qui vont aider Cronos à la titanomachie. Mais ça, on y reviendra. Effectivement, les 4 points du globe leur ont été attribués. L'ouest à Jappé, l'est à Hyperion, le nord à Koios et le sud à Krios. Tous les 4 tiendraient le monde en place avec en sens de Cronos. La prochaine fois, nous apporterons donc le sujet de Cronos et Rhea. Bah oui, on en a pas parlé aujourd'hui. Puis le cannibalisme de Cronos. Alors ça aussi, c'est extrêmement drôle, on en parlera également. Qui finira par mener à la titanomachie. Bah oui, j'arrête pas de vous en parler. La prochaine fois, ce serait bien que je vous en parle pour de vrai, quoi. Donc, soyez là la prochaine fois, et là, vous aurez réellement la réponse à certaines de questions que vous avez dû vous poser durant cette petite chronique histoire. C'était Nom de Zeus sur Radio Prévert 105.9. Nous repartons sur 10 minutes de musique avec C'est une belle journée de Mylène Farmer, Paradise de Coldplay et Danser le jerk de Thierry Hazard.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9.
Thank you.
Bienvenue à Radio Prévert, la radio qui te change d'univers, 105.9. Quoi de neuf au CDI ? La chronique littéraire d'Aurore Crane sur Radio Prévert, 105.9. Donc pour poursuivre cette matinale, on reçoit donc Madame Trane pour sa chronique littérature, comme chaque semaine.
Et oui.
Et aujourd'hui, de quoi vous allez nous parler justement ?
Alors, j'ai emmené deux livres aujourd'hui, toujours des documentaires. Donc je rappelle, s'il y a des élèves de 6e qui m'écoutent, la différence entre documentaire et fiction. Donc le documentaire donne des informations, et la fiction c'est de la lecture plaisir. Voilà, donc là on est sur des livres qui donnent des informations. Je vous ai présenté la semaine dernière un documentaire qui a été écrit, photographié, réalisé par Yann Arthus Bertrand. Voilà, et donc je vous ai emmené encore un livre de photos. Ce livre, l'histoire vraie des grandes photos depuis 1965, par David Groison et Pierre-Angélique Schuller aux éditions Actes Sud, regroupe un certain nombre de photos de presse qui ont marqué l'histoire et qui ont fait bouger l'histoire. Je parlais d'Yann Arthus Bertrand tout à l'heure parce que dans ce petit livre, c'est un petit livre carré, le format est sympa en plus, dans ce petit livre, on a la fameuse photo emblématique de Yann Arthus Bertrand, qui est le cœur de veau. Donc, il y a un jeu de mots, hein. C'est veau, V-O-H. Et, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette photo qui a dû, vous avez certainement dû l'apercevoir au moins une fois dans votre vie. C'est une photo d'une mangrove qui se trouve en Nouvelle-Calédonie, vue du ciel, toujours, bien sûr, puisqu'il fait partie du recueil vue du ciel. Où on voit inscrite dans ce paysage vert la mangrove en forme de cœur. Alors cette image, elle est importante. Elle a déjà marqué la carrière, un tournant dans la carrière de Yann Arthus Bertrand, parce que c'est celle qui figure sur la couverture du livre. Et donc c'est une photo qui l'a fait connaître. Mais elle est aussi emblématique de la prise de conscience des problèmes de l'environnement. Souvent, on nous montre cette photo pour illustrer dans les journaux les problèmes d'écologie, d'environnement.
Et plus précisément, le problème d'environnement, c'est lesquels, justement ?
Ah bah, il y en a plein des problèmes d'environnement.
Justement, avec cette photo-là.
Ah, pour cette photo-là.
Ouais, pour cette photo-là, en l'occurrence.
Eh ben, il y en a pas réellement, si ce n'est que la mangrove. Je sais pas si vous connaissez le principe d'une mangrove.
Pas plus que ça, non.
Alors, la mangrove, c'est un milieu naturel assez particulier qui est marécageux et qui s'assèche, normalement qui est tout le temps un milieu humide, sablonneux en fait, comme des marécages, et qui s'assèche quand l'eau se retire. Et là, donc, c'est le cas, en fait. Si la mangrove progresse sur la forêt, bah, il y a de moins en moins d'arbres, et voilà, il y a un déséquilibre écologique qui se crée. Pour cette photo-là, en Nouvelle-Calédonie, du moins, il n'y a pas réellement de problème, écologique à souligner, si ce n'est qu'elle est belle. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu l'avantage de ce livre, c'est que, non seulement il recueille des photos, mais il recueille aussi l'expérience de vie, le témoignage, les circonstances, le contexte historique dans lequel la photo a été prise. Et donc, cette photo, elle a été prise, enfin, elle a été publiée en 1990, mais en fait, elle est beaucoup plus ancienne. C'est une photo que Yann Arthus Bertrand a prise pour la création d'un autre livre qui s'appelle, je ne sais plus, ça doit être Voyage en Calédonie ou quelque chose comme ça, qui concerne l'île de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, la Nouvelle-Calédonie vue du ciel, donc qui a été faite avant la Terre vue du ciel. Et donc cette photo, elle a sa petite histoire parce que elle a été prise un petit peu au hasard par Yann Arthus Bertrand qui avait demandé à son pilote d'hélicoptère de le driver, en fait, de l'emmener dans les endroits les plus insolites de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce pilote d'hélicoptère, qui s'appelle Daniel Rondeau, l'a emmené dans cette mangrove, un endroit que personne, à part lui, ne pouvait connaître, du moins de vue du ciel, quoi, vu de cet angle-là. Et il a pris cette photo, mais elle figure pas dans le livre, parce que les éditeurs ont jugé qu'elle était trop verte, qu'elle était pas forcément en rapport avec le sujet, etc. Donc c'est une photo qui a été écartée. Et puis, lorsque Yann Arthus Bertrand a fait paraître le livre « La Terre vue du ciel », il a insisté auprès des éditeurs pour que cette photo, qui n'a pas été prise pourtant pendant le reportage de « La Terre vue du ciel », figure sur la couverture. C'est effectivement, elle est très jolie, et en plus, ce cœur qui apparaît comme ça... manière naturelle dans la nature, c'est tout un symbole, quoi. Le problème, c'est que Daniel Rondeau, qui a participé à la prise de cette photo, sans qui même cette photo n'existerait pas, il est pas remercié du tout dans le livre, son nom n'apparaît pas, et le pauvre en a fait une dépression, parce qu'il faut savoir que ce livre a généré des millions quand même, hein, voilà. Plus le film, etc. Et lui, bah, il a eu aucun droit dessus, et puis même aucune reconnaissance, ne serait-ce que symbolique. Donc, il en a fait une petite dépression, et il a arrêté complètement de voler. Il est plus pilote d'hélicoptère, et maintenant, il vit au Maroc. Voilà, c'est les dessous, en fait, de la photographie. Et ce livre, il en regorge, et c'est ce qui est intéressant. Moi, je l'utilise beaucoup avec mes élèves de quatrième. On a toute une séquence... sur l'éducation à l'image et plus généralement l'éducation aux médias. Et donc j'utilise beaucoup parce que ça permet de voir que derrière une photo qui est symbolique, bah, il y a tout un contexte, il y a toute une histoire. Par exemple, une photo que j'utilise beaucoup dans le cadre de mes cours, c'est la fameuse photo, attendez, je la recherche. C'est la fameuse photo de cette petite fille brûlée au napalm au Vietnam. Alors ça, c'est pareil. Hein. Cette photo-là, si vous l'avez pas au moins vue une fois dans votre vie, c'est que vous allumez jamais votre ordinateur ni votre télé. Faut juste que je la retrouve. Et donc, sur cette photo, pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, qui a été prise par Nick Hutt pendant le conflit du Vietnam, tiens, la voilà, en 1972, on voit des enfants qui fuient... suivi par des soldats américains qui fuient un nuage de poussière et des enfants qui ont l'air apeurés, complètement affolés. Et au centre de cette photo, le symbole du martyr des enfants dans la guerre, cet enfant complètement nu, les bras écartés, brûlé, qui court en hurlant. C'est une photo en noir et blanc et elle a été prise sur le vif par Nick Hutt. Sur cette photo, on peut voir aussi dans le coin, et ça on l'aperçoit pas forcément parce que la petite fille évidemment elle mange toute l'image, on voit un autre photographe de presse qui est en train de recharger son appareil photo et qui semble complètement indifférent à la douleur des enfants en fait. Donc cette photo, elle a fait scandale au moment de sa publication aux États-Unis et c'est grandement en partie grâce à elle que les citoyens américains se sont mobilisés pour faire cesser le conflit et la guerre au Vietnam. Donc c'est vraiment une photo qui non seulement est emblématique de la souffrance des civils et notamment des enfants dans la guerre, mais aussi qui a permis une prise de conscience réelle des agresseurs, hein, parce que les États-Unis étaient là, bon, comme d'habitude, pour aider la liberté, mais enfin ils envahissaient quand même un pays. Donc qui a permis de prendre faire prendre conscience aux gens aux États-Unis qui sont loin de tout ça, qui eux restent dans la paix, que bah il y a des gens qui souffrent et notamment des enfants dans les conflits. Pour la petite histoire, même si on voit un photographe occupé à recharger son appareil photo, le photographe Nick Hutt n'est pas du tout resté les bras croisés à regarder, juste à prendre la photo, puis après hop, je rentre aux États-Unis. Non, non, d'abord c'est lui qui a emmené la petite fille se faire soigner à l'hôpital. Il a fait pression sur les gens de l'hôpital pour qu'elle soit prise en charge. Et deux ou trois ans après, il est revenu sur les lieux, dans l'hôpital, dans lequel séjournait encore la petite fille, qui avait déjà subi 17 opérations, qui souffrait énormément. Il a pris la petite fille sous son aile. Donc la petite fille s'appelle Kim Fook. Et il l'a emmenée en Allemagne pour qu'elle subisse encore des opérations et pour qu'elle se rétablisse complètement, qu'elle ait de meilleurs soins. Et maintenant, elle vit au Canada où elle est mariée, elle a deux enfants et elle milite elle anime en tout cas des fondations, des associations qui aident les enfants victimes de la guerre. Donc, non seulement il y a le contexte historique de la photo et ce qu'elle a représenté à ce moment-là, mais il y a aussi derrière, toute l'histoire du photographe et toute l'histoire des gens qui sont sur cette photo. C'est pour ça que je le trouve très intéressant, ce livre.
Bon, oui, donc
il s'appelle L'histoire vraie, donc effectivement, on a l'histoire vraie de la photo.
Tout à fait.
Voilà, c'est ce que tu voulais dire.
Donc oui, justement, ce livre-là est pas mal dans ce sens, parce que on a donc les photos un peu connues, qu'on a l'habitude de voir depuis des années, et là, avec ce livre-là, on a, comme tu disais, l'histoire vraie, justement, de la photo, et le contexte, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à ce point-là.
Et c'est très intéressant, ça permet au lecteur aussi de sortir de sa position d'observateur, de sa position passive d'observateur, et de réfléchir aussi au sens de l'image. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le cadre de mes cours. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'inculquer aux élèves. Une autre photo assez emblématique, qui traite un sujet important, c'est une photo qui a été prise en 1968. Qui s'appelle, alors attention, je me suis encore entraînée tout le week-end pour mon accent anglais, mais c'est toujours pas ça, Olympics Black Power Salute. Donc, le salut olympique du pouvoir des Noirs. Alors, cette photo, je ne sais pas si toi tu la connais, Stéphane.
Je l'ai déjà vue, mais j'en connais pas du tout l'histoire.
Alors, tu l'as déjà vue, toi ?
Bah non.
Alors, pour la décrire, on voit, donc c'est une photo prise en noir et blanc. Pendant les Jeux Olympiques de Mexico en 1968, on voit donc prise du podium, vous savez, le fameux podium où tous les journalistes, sur lequel tous les journalistes sont rivés. On voit deux personnes noires et une personne blanche. Et les deux personnes noires ont la tête baissée et le poing ganté de noir levé. Alors, vous le savez peut-être pas, mais à l'époque, il y avait un mouvement de libération des Noirs qui voulait faire cesser la ségrégation qu'il y avait encore, malgré les textes de loi, aux États-Unis, entre les Noirs et les Blancs, qui s'appelait les Black Panthers. C'était un mouvement politique à la limite du terrorisme quand même. Hein, c'était pas des calmes, hein, c'était des violents. Mais enfin, ils avaient au moins pour mérite de souligner les problèmes qu'il y avait à l'époque et puis de vouloir faire bouger les choses. Et donc, ces deux sportifs ne font pas du tout partie des Black Panthers, mais ils ont tenu à ce que leur victoire, donc pour l'un d'entre eux, Tommy Smith, pardon, est arrivé premier. Et John Carlos est arrivé troisième dans une course d'athlétisme, je crois, une course de fond. Ils ont voulu profiter de ce podium pour envoyer un symbole fort de la ségrégation et justement fournir une image. Voilà, c'était leur but, fournir une image. Ben, ça a bien marché puisque on la connaît cette image très longtemps après. Et la petite histoire intéressante à raconter, c'est que, alors eux, ils ont mangé hein, après cette photo, parce que à l'époque, c'était pas forcément très toléré par les autorités de faire du militantisme. Donc, ils étaient complètement grillés dans le cadre olympique. Leur carrière sportive a été foutue. Tommy Smith a même divorcé de sa femme puisqu'ils se sont retrouvés avec des problèmes financiers pas possibles. Plus personne voulait l'embaucher, etc. Donc, c'est un acte, c'est vraiment une revendication forte. Hein, c'est une prise de position forte qu'ils ont eue. Et le troisième, le blanc sur la photo, on aurait tendance à croire que lui, il fait de la figuration et qu'il est là parce qu'il a gagné une médaille. Mais non, en fait, il était totalement impliqué dans le projet de cette photo. Tommy Smith et John Carlos lui en ont parlé avant. C'est même lui qui a eu l'idée de leur faire porter chacun un gant noir, puisqu'ils avaient qu'une seule paire de gants. Et il s'était procuré le badge de l'Olympic Project for Human Rights, donc le projet olympique pour les droits des humains, qu'on voit visiblement sur la photo qu'il porte. Alors, il semble stoïque comme ça, mais en fait, il fait partie prenante de la photo. Tommy Smith et John Carlos ont voulu l'impliquer au moment de la photo, et lui était d'accord pour être là, et voilà. Et d'ailleurs, lui aussi, il a mangé un petit peu quand même, parce qu'on lui a jamais pardonné de s'être retrouvé aux côtés, même si lui, apparemment, ne fait rien sur la photo. On lui a jamais pardonné d'être à côté. Il a plus jamais été sélectionné pour les Jeux Olympiques. Il a perdu son boulot d'enseignant un peu pour des motifs un peu vagues. Et toute sa vie, il est resté comme celui qui a un petit peu trahi sa nation. Il est australien. En australien, c'est pareil. Hein. Il y a aussi, à l'époque, il y avait aussi des problèmes de ségrégation. Donc c'est un acte fort aussi de sa part. Et donc, pour la petite histoire, lors du décès de Peter Norman, c'est le nom du blanc, lors de son décès en 2006 d'une crise cardiaque, Tommy Smith et John Carlos ont pris l'avion et ont fait le voyage jusqu'en Australie. Ils ont eux-mêmes porté son cercueil jusqu'à sa dernière demeure.
Très voilà. Belle histoire en tout cas.
Hein?
Très belle histoire.
Alors voilà, je trouve ça très intéressant comme livre. Quel autre je pourrais m'étendre des heures. Hein. Ah, si, je voulais vous parler de quelque chose. Voilà. Alors moi, je vais vous expliquer comment je fonctionne au CDI. Je vais faire mon petit coup de gueule, si vous voulez bien. Hein. Donc moi, au CDI, en fait, je laisse les livres à la disposition des élèves. Et je suis pas tout le temps à les fliquer pour savoir ce qu'ils font avec les livres. Et donc celui-là, il était, c'est une nouveauté. Hein. Donc il était sur une table en présentation. Et là, tout à l'heure, quand je l'ai pris pour le feuilleter et trouver des idées, j'ai vu donc sur la célèbre photo « Le baiser mortel » en 1979 par Régis Bossu, où on voit en fait deux chefs d'État s'embrasser sur la bouche. Donc pour la petite histoire, ces deux hommes d'État ont voulu s'embrasser sur la bouche, mais c'est un peu le baiser du traître, hein, parce qu'ils étaient assez en conflit. Enfin, leur pays au moins était en conflit. Bon, bref, je vais pas vous raconter l'histoire de la photo, mais ce qu'on peut voir sur la photo, c'est la mention qu'un élève, enfin la légende particulière qu'un élève a bien voulu mettre.
Effectivement.
Hein. Voilà. Donc on voit marqué PD. Sur la photo, donc au stylo noir. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, et ça va complètement à l'encontre du livre, puisque le livre est là justement pour éduquer les gens à voir plus loin que l'image, donc plus loin que cette image de deux hommes qui s'embrassent. Il y a des symboles guerriers et des revendications politiques, et puis aussi, surtout, ça fait montre d'une certaine intolérance.
Oui, que les mentalités n'ont pas forcément encore changé.
Voilà, et donc je fais bien tous les ans de travailler avec les élèves sur ce genre de problème. Voilà, donc deux hommes qui s'embrassent ne sont pas des PD, ce sont des homosexuels. Voilà, bon, en 1979, ils n'avaient pas trop le droit de s'embrasser, mais de nos jours, heureusement, vu qu'on a évolué, ils ont tout à fait le droit de s'embrasser sans subir les insultes des uns et des autres. Et deuxièmement, si l'élève avait pris soin de tourner la page et de lire le texte, il aurait vu qu'il y avait absolument aucune relation amoureuse entre les deux hommes.
Et qu'il y avait une histoire derrière cette photo.
Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée.
C'est bien entendu.
est-ce que je peux enchaîner sur le deuxième livre? Vous en avez marre de m'écouter.
On peut continuer.
On peut continuer.
Allons-y.
Très bien. Le deuxième livre, c'est aussi un livre qui me sert à l'éducation aux médias et qui me sert à démontrer aux élèves qu'il faut pas croire tout ce qu'on raconte. Ce livre, il s'appelle « Théorie du complot » et c'est un ouvrage collectif et il a été publié chez L'Imprévu. Alors, il est assez bien réussi pour un livre de ce genre-là, puisqu'il il fait le pari d'être à la fois ludique et de donner de bonnes informations. Alors, la théorie du complot, est-ce que vous savez à peu près ce que c'est? Enfin, les théories du complot, c'est au pluriel.
C'est, on va dire, en quelque sorte, des gens qui vont trouver une histoire derrière un fait.
Voilà, ce sont des gens qui racontent des cracks, en fait, en gros. Hein. Ce sont des mensonges qui sont là pour justifier une certaine paranoïa, ou alors jeter de l'huile sur le feu, etc. Alors, des théories du complot, en ce moment, on en trouve plein sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Moi, je traîne pas mal mes doigts sur le clavier des réseaux sociaux de Facebook, et effectivement, des théories du complot, il y en a plein. Et ça, c'est aussi une grosse part de mon programme en éducation aux médias, où on démontre ce qu'on appelle maintenant les hoax. Donc les hoax, c'est la version informatique, la version numérique, en fait, de la théorie du complot. Et donc là, on a dans ce livre regroupé, sur chaque double page, des théories du complot tout au long de l'histoire. Donc ça démarre à l'époque des rois avec tous les meurtres royaux et ça se termine par l'effondrement des deux tours, évidemment, puisque ça a donné lieu à pas mal de théories plus farfelues les unes que les autres. On retrouve les grands mythes comme le Bigfoot, voilà, le Yeti, le bug de l'an 2000 aussi est présent. Mais également des choses un peu plus pointues, un peu plus historiques sur la Seconde Guerre mondiale, où par exemple on nous explique que les débarquements de Normandie ont donné lieu à une petite désinformation de la part des Américains. Vous connaissez cette histoire ?
Pas vraiment, non.
Pas vraiment.
Même pas du
tout. En fait, moi j'en avais entendu parler, mais j'ai eu plus de détails là dans le livre. Lors du débarquement en Normandie qui a mis fin à la guerre et qui a permis de libérer la France, en fait. A été trollé par les Américains au niveau des services secrets des Allemands. C'est-à-dire que les Américains ont réussi, grâce à leurs mathématiciens, à décrypter le code secret avec lequel les Allemands communiquaient et ont bombardé ce réseau de fausses informations. Et donc, ils avaient fait passer le message aux Allemands que le débarquement aurait lieu à Calais et dans le sud de la France, en Provence. Donc au moment du débarquement, la majorité des troupes, elles s'étaient placées à Calais et au sud de la France, et donc les Américains ont pu débarquer un peu plus pas tranquillement, parce que ça a quand même donné lieu à de grands affrontements, mais au moins ils ont eu une chance de réussir leur débarquement. C'est pas évident, hein, débarquer de la mer avec des gens qui nous attendent à terre, c'est pas gagné. Mais grâce à ça, ils ont réussi. Ils ont aussi c'est pas mal, ils ont trouvé un sosie de je ne sais plus quel général allemand, qui nous ont fait balader en fait sur ils l'ont envoyé en mission dans les camps allemands et lui il a trollé les gens en fait en leur disant voilà ça sera à tel endroit. c'est assez incroyable.
Il y a plein de petites histoires comme ça qu'on connaît pas forcément même en étant en cours comme ça et qui sont hyper intéressantes quoi.
Voilà, ça c'est pour les petites histoires en fait, les petites anecdotes. Moi je trouve ça assez intéressant de les connaître parce qu'on voit que finalement l'histoire elle se joue à pas grand chose quoi.
C'est sûr.
On a aussi les assassinats de Kennedy, les assassinats de Lincoln, bon le monstre du Loch Ness. Alors le classement est pas très rigoureux puisqu'on passe d'une époque à l'autre. J'aurais préféré un classement chronologique, mais c'est un classement thématique. Donc on a les grands assassinats, on a tout un dossier sur les extraterrestres où on trouve la zone 51 aussi. Les canulars. Donc les canulars, un canular c'est une blague montée de toutes pièces en fait. Voilà, les faux hommes préhistoriques, les faux suaires du Christ, il y a des faux géants aussi pris aux États-Unis, le Yeti, etc. Donc c'est assez intéressant. C'est ludique parce que c'est toujours rigolo de voir comment les gens arrivent à monter, enfin à se monter la tête en fait, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et puis en même temps, c'est assez informatif puisqu'on retrouve des indications chronologiques, on retrouve des pièces officielles, etc. Donc il est illustré avec des photos, c'est un livre qui est sympa, qui donne envie de creuser certaines choses. Donc ça peut être une entrée en matière, puis après vous faites vos petites recherches sur internet si vous avez envie de creuser le sujet
pour approfondir.
D'accord. Voilà, donc je rappelle les titres. Donc Théorie du complot aux éditions L'Imprévu et L'histoire vraie des grandes photos depuis 1965 chez Actes Sud Junior, un petit livre mais pourtant très grand. Voilà. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Madame Tran.
À bientôt, à la semaine prochaine.
C'était Quoi de neuf au CDI sur Radio Prévert 105.9.
Le saviez-vous ? Les anecdotes les plus insolites et tout ce que vous ne saviez pas, c'est maintenant sur votre fréquence. Nous nous retrouvons pour un nouveau Le saviez-vous ? Alors pour ce saviez-vous-là, j'ai décidé de mettre un peu dans le thème d'Halloween, quelque chose d'un peu sombre, d'un peu glauque en fait. Ouais, c'est même très glauque en fait ce que j'ai choisi. Vous allez comprendre. Alors pour ce Le saviez-vous, nous partons sur l'archipel des Kiribati. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se situe dans l'océan Pacifique. Les personnes qui habitent là-bas, donc sur l'archipel des Kiribati, s'appellent les Gilbertins. Ouais, moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Alors, plongeons-nous sur cette île. Donc, sur cette île, une grosse partie de la population est chrétienne. Mais, la partie qui nous intéresse, 5% de la population fait toujours un enterrement traditionnel. Donc la date avant la colonisation, en fait. Et oui, nous allons partir sur les enterrements. Allez, préparez-vous déjà mentalement. Le nom de la cérémonie que nous allons aborder s'appelle l'enterrement du crâne. Allez, ça paraît festif tout de suite. Hein. Comment s'effectue cette cérémonie ? Tuto cérémonie enterrement du crâne. Alors, premièrement, déjà, le cadavre de la personne morte, on ne l'enterre pas tout de suite. On garde la personne avec soi entre 3 à 10 jours. Oui, là-bas, et ils pensent que des fois, l'âme, elle part, puis finalement, elle se dit « Tiens, je vais revenir !» Et elle revient dans le corps. C'est pour ça qu'on les laisse 3 à 10 jours. Alors, vous le savez tous, un cadavre, au bout d'un moment, ça sent mauvais. Il y a les fluides qui ressortent, ça sent pas bon. Alors, leur méthode à eux, c'est de mettre plein de feuilles autour du défunt, donc des fleurs odorantes, et ils mettent des fleurs dans le nez et les oreilles du cadavre. Pour que ça sente bon. Il faut s'imaginer mentalement la chose. 3 à 10 jours plus tard, finalement, ils enterrent le cadavre. Youpi ! Sauf que plusieurs mois plus tard, ils vont déterrer le cadavre. Ils déterrent le cadavre. Et ils vont polir le squelette. Ouais, ils polissent le squelette. Donc, durant ce magnifique polissage, il arrive qu'ils récupèrent des os du corps pour en faire des outils. Ou bien de garder des dents pour en faire des colliers. Oui, je suis sûre que vous avez déjà vu des colliers en dents. De toute façon, il me semble que ça se fait aussi dans les îles Fidji. J'ai un doute sur la question. Puis finalement, ils vont enfin réenterrer le squelette. Ouais, c'est sans plusieurs étapes, vraiment. Hein. Mais là, c'est la dernière fois qu'ils enterrent le squelette. C'est bon. Sauf que je vous ai parlé d'enterrement du crâne. Quel rapport avec le crâne ? Eh bien, ils gardent le crâne. Oui, ils polissent le corps, ils font des outils avec les os, etc. Et ils gardent le crâne. Ils prennent le crâne de la personne décédée qu'ils vont ranger dans leur maison. Sur une petite étagère, bien au milieu de la maison, avec des trucs de déco autour. C'est génial. Et chaque semaine, ils vont donner au crâne des personnes décédées un peu de tabac, de nourriture. Alors, vous imaginez la chose, hein. Vous entrez chez eux et vous avez des étagères entières de crânes. Ouais, c'est festif. Hein. Donc, j'espère que vous avez beaucoup aimé ce « Le saviez-vous ?» un peu glauque. Et nous avons donc terminé avec ce Le saviez-vous la matinale. Donc, ouais. C'était Le saviez-vous sur Radio Prévert 105.9.
Et bien, on se retrouve nous donc très bientôt, Manon, pour une nouvelle matinale, donc dans quelques semaines.
Effectivement, là, pour ceux qui ne le savent pas, fin de semaine...
Et c'est les vacances scolaires, surtout.
Oui, les vacances de la Toussaint, à partir du 21, jusqu'au 6, il me semble.
Jusqu'au 6, oui, et on se retrouve, nous, donc, une semaine après la rentrée, donc pour une toute nouvelle matinale, tous les deux, en direct sur Radio Prévert 105.9.
Effectivement, à la rentrée, le mercredi, normalement, l'heure où on fait notre matinale, il y aura...
Une autre émission en direct.
Une autre émission en direct, mais le titre est un peu compliqué à retenir. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus et...
On vous aura prévenus, voilà.
Vous serez prévenus, nous maintenant nous allons préparer la prochaine matinale et vous laisser. En vous souhaitant un bon appétit du coup.
Des bonnes vacances également.
Aussi. Et un bon Halloween.
Voilà, et à très bientôt sur Radio Prévert 105.9.
Au revoir.
Au revoir.
morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Whoa. Good morning. And
good morning, Radio Prevent.